ça avait l'air un petit peu broche à foin.
Yasmine Abdel-Fadel.
On peut pas être un chef à temps partiel.
Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
Marc-André Leclerc.
Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles...
La rencontre.
Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Non, mais elle a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable.
Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué.
Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là.
C'est exactement ça.
La rencontre, Abdel-Fadel Leclerc.
Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô,
bon
allô.
Matin.
Bon, alors, Amira El Gawabi hier qui a rencontré Yves-François Blanchet, qui va rencontrer Pablo Rodriguez, qui s'est excusé. Au début, c'était juste pour l'effet de ses propos. Finalement, c'était pour ses propos. Ça ne plaît pas Marc-André à Québec. Yves-François Blanchet non plus ne semblait pas très convaincu. Qu'est-ce qu'on en pense? Pardonner et on tourne la page ou elle devrait encore démissionner?
Ben là, pour M. Blanchet, on va savoir ce qu'il en pense, hein, parce que là, il a pas fait de point de presse là, après ça.
Non, il était à la période de questions après ça pour dire que c'était une erreur qui devait être corrigée.
Ouais, mais ça prenait du temps, mais ça prenait 24 heures avant qu'il nous revienne pour nous faire un point de presse. Et je veux dire, je trouve ça un peu bizarre du côté de M. Blanchet, mais il a quand même donné une tribune à Mme El Gawabi qui permet de s'exprimer, là. Fait que si mettons, là, la température baisse par rapport à sa candidature, M. Blanchet l'aura aidé, directement ou indirectement, mais tu le dis, Philippe Vincent, clairement, c'est pas suffisant pour Québec. Et là, on se retrouve justement là, un peu peut-être à la fin du film, mais là, qu'est-ce qui peut arriver? Là? Je veux dire, elle a fait des excuses sur la façon que les Québécois ont perçu ses propos. Après ça, c'est sur ses propos, mais dans le fond, elle pense la même chose pareil. Ça n'est pas revenu là-dessus. Là, rencontrer M. Blanchet, rencontrer M. Rodriguez, avoir rencontré Québec solidaire. Fait, dans le fond, c'est quoi? C'est les politiciens qui ont besoin de lui parler pour dire « OK, c'est beau, tu peux rester ». Tout ça est un peu bizarre. Là. Je veux dire, à la fin de la journée, elle a un poste bien payé, entre 160 et 190 000. Fait que, tu sais, ses excuses aussi, ça aide à faire des excuses à la fin des courses, mais ça va pas rien changer. Là. Monsieur Trudeau va la garder, puis Monsieur Legault pense qu'elle est pas bonne pour être là, puis qu'elle est pas qualifiée pour être là, puis qu'elle devrait pas être là. Fait qu'on est un peu dans un discours de sourd parce qu'il y a rien qui va changer.
Yasmine, en même temps, si François Legault est contre, c'est peut-être un signe qu'elle va déranger et changer les choses comme il faut, là, pourrait dire certains Canadiens.
Ben, il y a deux choses. Est-ce que c'est Amira El Gawabi qui dérange ou est-ce que c'est un poste qui est dédié à la lutte à l'islamophobie, un fléau qu'on a de la misère aussi à reconnaître ici au Québec, un peu comme le racisme systémique. Là, ça existe pas. Est-ce qu'il y a des éléments qui le sont? Oui, mais ça existe pas. C'est le discours qui est populaire. Là, aujourd'hui, c'est que Amira El Gawabi, elle agit à titre de, finalement, on lui tire dessus pour ne pas tirer sur le titre, le poste qui en soit. Et c'est ainsi qu'elle devient toxique. Je pense que ses excuses, je veux même pas les qualifier, est-ce qu'elles sont sincères ou pas sincères. Je pense qu'il est trop peu trop tard. Et je pense qu'elle est devenue contre-productive pour la cause de la lutte à l'islamophobie et qu'elle devrait céder sa place si elle croyait vraiment que l'islamophobie mérite d'être combattue au Canada. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas les coudées franches pour mener à bien cette lutte-là. Et pouvoir enlever.
Mais penses-tu que n'importe qui nommé dans ce poste-là aurait été critiqué de la sorte ou?
Ben, je pense qu'on aurait critiqué la création de ce poste-là, mais je pense pas qu'on l'aurait critiqué de manière aussi virulente. C'est juste que là, il y a un argument qui est servi sur un plateau d'argent de quelqu'un qui est dans ce poste-là, qui a eu des propos absolument indignes et affreux. Or, si on change quelqu'un qui est plus raisonné, qui a un passé, qui puisse être plus factuel, quelqu'un qui est ancré dans la réalité, pas nécessairement dans les préjugés, ben, ça pourrait peut-être mener à l'argumentaire de dire, ben, ce poste-là est nécessaire pour le Canada, puis l'islamophobie, c'est pas juste au Québec, c'est partout au Canada.
Comme M. Ben Abdallah, par exemple, du Centre culturel islamique, qui lui-même a demandé à Mme El Gawabi de s'excuser.
Oui, il lui a demandé de s'excuser parce que c'est ça, c'est le problème, c'est que même la communauté musulmane qui réclame depuis longtemps une stratégie nationale de lutte contre l'islamophobie se retrouve comme si elle était une représentante, une indigne représentante finalement des musulmans. Et pour cette lutte contre l'islamophobie, est-ce qu'elle va pouvoir mener cette lutte-là avec ce qu'on sait d'elle? J'en doute fortement. Et je pense que si elle croit à cette lutte à l'islamophobie, elle devrait céder son poste.
Marc-André, hier, c'était le témoignage très attendu de Dominic Barton, ancien managing partner de McKinsey. Qu'est-ce que tu as pensé de ce témoignage-là?
Ben, ça a commencé vraiment. On a vu, tu sais, il y a tout le temps, quand il y a ce genre de rencontre-là avec les députés, puis on convoque quelqu'un sur un dossier là, chaud comme celui-là, la personne qui arrive devant les élus a quelques minutes là, pour faire une adresse, pour donner quelques remarques. Et c'était clair là ce que M. Barton essayait de faire, c'est de démontrer que dans le fond, il n'est pas un ami de Justin Trudeau. Et là, c'est là-dessus que ça l'a porté, hein, savoir si c'était un ami ou pas un ami, pas un ami personnel. Fait que, autant l'opposition que les libéraux ont joué là-dessus, là. Tiens, Tania Osfader qui va lui demander, est-ce que vous considérez M. Trudeau dans vos 5 meilleurs amis, dans vos 10 meilleurs amis, dans vos 25 meilleurs amis, dans vos 50 meilleurs amis? Est-ce que vous envoyez une carte de fête à M. Trudeau? Est-ce que vous envoyez une carte de Noël à M. Trudeau? Est-ce que vous donnez des cadeaux de fête à M. Trudeau? Fait que, ils ont essayé de démontrer que M. Barton, il était pas un ami de Justin Trudeau, parce que selon la loi, puis commissaire à l'éthique, tout ça, si tu donnes des contrats à tes amis, tu vas te faire taper sur les doigts. Fait que c'était vraiment clair la façon que M. Barton voulait être là, que les libéraux également, le travail qu'ils voulaient faire, puis également le travail de l'opposition. Sauf qu'écouter M. Barton, c'est comme si Justin Trudeau savait pas c'était qui, là. T'sais, à un moment donné, il y a un juste milieu, là. Là, il dit, ah, j'ai pas son numéro de téléphone, mais là, ouais, je l'ai rencontré une première fois, j'étais avec Jim Flaherty, je l'ai croisé, je savais pas c'est qui Justin Trudeau. On me dit que, tu sais, à un moment donné, pouce, mais pouce égal, là. Je veux dire, il sait c'est qui Justin Trudeau. Tu sais, il était nommé ambassadeur du Canada en Chine. Je veux dire, il y avait quand même quelques relations.
Ouais, puis je veux juste te faire écouter un extrait de Chrystia Freeland, là, lorsqu'il a été nommé ambassadeur en Chine. Madame Freeland décrivait la relation entre M. Barton et Justin Trudeau.
Who can pick up the phone at any time and speak directly to the Prime Minister, speak directly to me. Someone who has that personal connection and a personal connection built up over time.
Ouais. Fait que là, elle nous disait, Mme Freeland, qu'il pouvait prendre le téléphone à n'importe quel moment, puis qu'il y avait une relation personnelle bâtie au travers des années. Puis là, hier, M. Barton, les méchants médias qui ont dépeigné ça, c'était des mensonges. À un moment donné, aidez-vous la gang, là.
Oui, puis même Bill Morneau, hein.
Ouais.
Mais même Bill Morneau, dans son livre, il en parle de Mick Barton, puis comment il est accessible, puis proche. Il y a comme un peu un double discours, là.
Ce qui est dommage là-dedans, c'est que hier, cette commission parlementaire-là, on dirait qu'elle a porté sur les relations personnelles, existent-elles, existent-elles pas, elles sont de quelle force entre Dominic Barton et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Or, ce qu'on voulait savoir, le plus important, le plus structurant, c'est de savoir quelles sont les relations entre Mackenzie et l'appareil gouvernemental, à quel point ils sont capables d'influencer les décisions politiques et quels sont les tentacules que Mackenzie a réussi à installer un peu partout dans l'appareil politique, dans l'exécutif fédéral. Alors, c'est bien le fun de savoir quelles sont les relations personnelles, puis peu importe ce qu'on en pense, mais ce n'est pas ça le nœud du problème, parce que Dominic Barton pourrait ne pas être là demain, puis Justin Trudeau pourrait être ne pas être là demain. Mackenzie, comme corporation, continuera d'exister, puis le gouvernement du Canada continuera d'exister, puis on veut savoir comment ils influencent les politiques fédérales, quels sont leurs rapports, est-ce que ça dépasse les limites. Puis malheureusement, ça, on n'a pas eu nécessairement toutes les réponses que l'on cherchait. Ça a beaucoup été escamoté pour faire les 15 minutes, les 15 secondes de clip pour passer au téléjournal plutôt que d'aller au fond des choses. J'aurais aimé qu'on aille au plus au fond des choses quand on avait Dominic Barton devant nous.
Ouais, puis qu'on comprenne la stratégie de Mackenzie aussi. Comment ils ont réussi à passer d'un contrat pro bono à une centaine de millions de contrats. Puis ils ont fait ce même genre de stratagème-là aux États-Unis aussi. Donc ça aurait été quand même important de le comprendre, mais bon, la politique est en
ce c'est pas terminé. Je veux dire, il y a plein de ministres qui vont passer. C'est pas terminé, mais c'est sûr que je suis d'accord avec Yasmine, le fait que Dominic Barton était là, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Là. Ils ont comme tous, ah, OK, il faut parler de Barton.
Es-tu mon ami ou t'es pas mon ami?
Es-tu mon ami? Ça l'a comme un peu... on a tourné peut-être un petit peu les coins ronds, mais on verra ce que la suite des choses va nous réserver, parce que c'est pas terminé.
Bon, parlant d'amis, pas d'amis, la violence dans les écoles qui... je sais pas si c'est parce qu'on la voit, parce qu'elle est filmée, qui rajoute une couche de ça encore plus violent, là, qui rend ça encore plus violent, de voir les gestes violents, mais de voir aussi l'inaction des gens autour, mais le fait que ça soit filmé, puis partagé, puis l'humiliation. Est-ce que Bernard Drinville, Yasmine, doit en faire une priorité? Est-ce qu'il doit amener un comité parlementaire ou une commission, comme à l'aide médicale à mourir, pour se pencher sur les causes de cette violence-là?
Ben, il y a un juste milieu, dans le sens où hier, Marois Risky, ce qu'elle a proposé était tout à fait tenable. Elle proposait que la commission parlementaire puisse prendre un mandat d'initiative. C'est quoi ça? C'est que c'est une commission parlementaire qui est déjà permanente, qui dit « moi, je veux étudier ce sujet-là ». Elle demande à Bernard Drinville d'appuyer le fait qu'il puisse y avoir, qu'il puisse se doter de ce mandat d'initiative. Et c'est là où la réponse du gouvernement est très floue. Ils disent, ben, la commission parlementaire, elle est indépendante puis elle fera bien ce qu'elle veut. Oui, mais la CAQ est majoritaire dans cette commission permanente. La CAQ peut déterminer si elle va exister ou pas exister ce mandat d'initiative. On peut pas juste dire la commission est indépendante. Si le ministre dit, je veux qu'elle se tienne, ben, les députés qui forment cette commission vont voter pour le mandat d'initiative. Si c'est le contraire, ils vont voter contre. Alors, on voit qu'il n'y a pas de volonté de laisser les parlementaires étudier cette question de fond, d'aller chercher les experts qui vont pouvoir venir s'exprimer sur la question de la violence dans les écoles. Je trouve ça bien dommage parce qu'on a beau nous dire que c'est une priorité, ben là, ça coûte rien aux contribuables, le mandat d'initiative. Ça permet d'entendre les experts et ça permet de parler des fonds des choses plutôt que de la surface et de faire de la politique avec la violence dans les écoles. Je trouve ça bien dommage comme tactique gouvernementale.
Marc-André.
Ben, je trouve que M. Drinville, il paraît mal. Parce que M. Drinville, la semaine passée, jeudi passé, il a nous annoncé 7 priorités. Puis, tu sais, je veux dire, on saluait, là, la démarche, puis les gens disaient, OK, ils proposent pas une réforme, puis tu sais, une autre réforme, puis bon, on fait qu'on part avec ça. Mais ça fait même pas une semaine qu'il a fait sa présentation, puis là, on doit y rajouter une 8e priorité, là. Puis M. Drinville, il dit, moi, j'ai fait le tour des écoles, là. J'étais allé sur le terrain, là. J'ai écouté, là. Mais dans toutes les entrevues qu'il a faites, dans sa présentation jeudi passé, durant le caucus à Laval, moi, je ne l'ai pas entendu parler de violence. Puis qu'il semble que les chiffres sont quand même assez accablants là-dessus. Fait que, tu sais, comme ministre, t'es allé sur le terrain, t'es écouté les profs, c'est quoi, y a-tu des profs qui ont parlé de la violence? Ben, j'imagine que oui, si on se fie aux chiffres qui sont là. Et là, les cas vont se multiplier, là, parce que là, c'est comme si les chiffres d'hier, ben là, c'est sûr que on va en parler encore plus, puis là, les projecteurs sont sur cet enjeu-là. Fait, je trouve que pour M. Drinville, on avait salué son départ, les 7 priorités, mais là, peut-être qu'il en manquait une 8e, puis une 9e, puis une 10e, puis...
tout est prioritaire bientôt.
Ouais, c'est ça, mais tout va être prioritaire. Fait que, tu sais, je trouve ça...
Mais il pourrait se débarrasser de ça rapidement. Il pourrait se débarrasser de ce dossier juste en acceptant le mandat d'initiative. On pouvoir être étudié. Ben, c'est en train d'être étudié. C'est ça, puis tu dis, ben je vais regarder les recommandations du comité, puis je vais faire un gros comité.
C'est juste que pendant que le comité fait ça, il fait pas le reste. Fait que c'est de gérer l'horaire du comité. En tout cas,
mais ça, c'est les leaders.
Ah. Faut quand même saluer le travail de Marois Risky qui, entre un biberon et un changement de couche, a fait ses demandes d'accès à l'information et a montré à cette belle opposition que tu peux faire des choses même si tu n'es pas au gouvernement. Yasmine, Marc-André, à demain.
À demain.